Chapitre 33. Mon souvenir des 20 minutes ou plus que j'ai passé dans le grand réfectoire brillamment éclairé ressemble beaucoup au cauchemar qu'il nous arrive à tous de faire un jour ou l'autre. Vous voyez sûrement ce que je veux dire. Je parle de ces mauvais rêves où nous nous retrouvons dans un endroit de notre passé, mais sans nous rappeler la raison pour laquelle nous y sommes, ni les noms des personnes qui nous entourent. Quand le lieutenant et ses 2 soldats me firent entrer dans le réfectoire, tout dans la salle était à la couleur du décalage cauchemardesque de ce qui m'était autrefois familier. Je dis cela parce que j'avais passé une bonne partie de mes 27 ans d'âge dans des camps de chasseurs et dans des messes militaires, dans des bars de casino et dans les cambus de vieilles barges. La compagnie de ce genre d'hommes m'était familière. Trop familière, aurais-je même pu dire alors, car les éléments dont je sentais la présence dans cette salle, tapage, rodomontade et odeur de transpiration mâle, de citadins nerveux en train de faire des rencontres masculines, m'avaient depuis longtemps laissé totalement blasé. À présent, cependant, cette familiarité était plus que compensée par l'étrangeté de la situation. Je percevais des bribes de conversation épicées de dialectes, les différences subtiles d'habillement, l'odeur suicidaire des cigarettes, et la certitude que je me vendrais presque immédiatement si jamais j'étais obligé de réagir devant leur monnaie, leur culture ou leur conversation. Il y avait un grand bocal à café sur la table la plus éloignée. Je n'avais jamais vu un réfectoire sans cet accessoire. J'y dirigeais nonchalamment mes pas en essayant de paraître aussi naturel que possible, trouvais une tasse relativement propre et me versais un peu de liquide noir. Pendant tout ce temps, je surveillais du coin de l'œil le lieutenant et ses 2 hommes en train de m'observer. Quand ils parurent confortés à l'idée que ma place était bien ici, ils se tournèrent pour partir. Je sirotais un horrible café en notant au passage que ma main qui tenait la tasse ne tremblait pas en dépit de l'ouragan d'émotions qui s'était emparé de moi et essayait de décider de ce que j'allais faire ensuite. Le plus étonnant dans tout cela, c'était que j'avais toujours mes armes, mon couteau dans sa gaine et mon pistolet. J'avais aussi ma radio. En envoyant un signal, je pouvais faire exploser le plastique quand je voulais et profiter de la confusion pour récupérer le tapis Hawking et filer avec. Maintenant que j'avais vu les sentinelles de la Pax, je savais qu'il allait falloir une diversion d'un genre ou d'un autre pour que le radeau puisse passer devant cette plateforme sans se faire détecter. Je marchais jusqu'à la fenêtre. Je me mis face à la direction que nous avions pris l'habitude d'appeler le nord, mais vis que le ciel à l'est était éclairé d'un halo annonçant le lever imminent des lunes. L'arche d'Istrance était visible à l'œil nu. J'essayais d'ouvrir la fenêtre, mais elle était bloquée d'une manière invisible ou bien clouée. Un peu plus loin, 1 mètre en contrebas, il y avait un autre module avec un toit en tôle ondulée, mais je ne voyais pas comment y accéder.
« Avec qui es-tu, mon garçon ?»
Je me retournai vivement. 5 hommes s'étaient détachés du groupe le plus proche de moi, et c'était le plus gros et le plus petit qui s'adressaient à moi. Ils portaient une tenue d'extérieur, chemise en flanelle à carreaux, pantalon de toile, veste de toile à peu près semblable à la mienne, couteau à écailler le poisson à la ceinture. Je me dis alors que les hommes de la Pax avaient dû voir le bout de mon étui à pistolet qui dépassait de dessous ma veste, mais croire qu'il s'agissait d'une gaine pour un poignard du même genre. L'homme s'était lui aussi exprimé en dialecte, mais très différent de celui des gardes de l'extérieur. Les pêcheurs, d'après ce que je savais, devaient être originaires d'un autre monde. Mon accent n'était donc probablement pas suspect. Klingman, répondis-je avant de boire une nouvelle gorgée de café à goût de vase. C'était le mot magique qui avait déjà marché avec la Pax. Mais il ne marcha pas avec ces hommes. Ils s'entre-regardèrent un instant, puis le plus gros s'adressa de nouveau à moi.
« On est tous arrivés avec le groupe Klingman, mon garçon, de Sainte-Thérèse. Tu n'étais pas sur l'hydroglisseur. À quoi tu joues ?»
J'eus un large sourire. « Je ne joue pas ?» lui dis-je. Je devais arriver avec le groupe, mais je l'ai raté de peu à Sainte-Thérèse. Je suis venu avec les outres. Ce n'était toujours pas ça. Les 5 hommes commencèrent à palabrer entre eux. J'entendis le mot braconnier à plusieurs reprises. 2 types s'éloignèrent et sortirent par la porte. Celui qui m'avait parlé pointa sur moi un index épais en disant
« Le type avec qui j'étais assis là-bas, c'était le guide des autres. Il t'a jamais vu avant non plus. Ne bouge pas d'ici, mon garçon. »
S'il y avait une chose que j'étais décidé à ne pas faire, c'était bien ce qu'il disait. Je posai ma tasse sur la table en murmurant d'une voix rauque « C'est vous qui allez m'attendre. Je vais chercher le lieutenant pour mettre cette histoire au clair. Restez ici. » Le gros homme sembla pris de court. Il demeura à sa place tandis que je traversais le réfectoire à présent silencieux pour ouvrir la porte et sortir sur la passerelle. Je n'avais nulle part où aller. Sur ma droite, les deux soldats de la Pax armés de leurs pistolets à fléchettes s'étaient mis au garde-à-vous contre le bastingage. Sur ma gauche, le lieutenant à qui je m'étais heurté quelques instants plus tôt arrivait rapidement, accompagné de deux civils, avec un capitaine grassouillet de la Pax à sa remorque.
« Merde !» murmurai-je.
En subvocal, j'ajoutais
« J'ai un petit problème, ma jolie. Je crois que je me suis fait coincer. Je laisse le son pour que tu puisses entendre ce qui se passe. File droit sur le portail et ne me réponds surtout pas. »
Il ne manquait plus qu'une petite voix fluette sortant de mes écouteurs pendant que je palabrais avec ces gens.
« Ah !»
m'écriai-je en m'avançant vers le capitaine, la main tendue comme pour serrer la sienne.
« Vous êtes justement la personne que je voulais voir. »« C'est lui !»
s'écria l'un des deux pêcheurs.
« Il n'est pas arrivé avec nous ni avec les autres. C'est l'un de ces bons sang de croix de braconniers dont vous nous avez parlé. Passez-lui les menottes !»
ordonna le capitaine au lieutenant. Avant que j'aie pu faire ou répliquer quoi que ce soit d'intelligent, les soldats m'immobilisèrent et le lieutenant me menotta les poignets. Le double bracelet était en métal d'un modèle antique mais efficace. Mes mains étaient liées devant moi et le sang ne circulait presque plus. Je compris en cet instant que je ne m'en sortirais jamais en tant qu'espion. Tout dans mon incursion sur cette plateforme avait tourné au désastre. Les hommes de la Pax étaient pourtant d'une négligence extrême. Ils étaient agglutinés autour de moi alors qu'ils auraient dû garder leur distance et me couvrir de leurs armes pendant qu'on me fouillait. Ensuite, ils m'auraient menotté après m'avoir désarmé. Mais la fouille allait sans doute venir dans quelques secondes. Je décidai de ne pas leur donner ces quelques secondes. Levant rapidement mes deux bras ensemble, je saisis le capitaine grassouillet par le devant de sa chemise et le poussai violemment contre les deux civils. Il y eut un instant de confusion où tout le monde s'agita et cria à la fois, et j'en profitai pour faire rapidement volte-face, envoyer de toutes mes forces un coup de pied dans les testicules du premier garde armé et saisir le deuxième par la sangle de l'arme qu'il portait encore à l'épaule. Le soldat se mit à hurler et attrapa son arme à deux mains tandis que je tirais la sangle vers le bas et sur ma droite. Sa tête heurta le mur avec force et il retomba assis, complètement groggy. Le premier garde, celui que j'avais amoché et qui restait courbé en deux, une main couvrant son entrejambe, leva sa main libre, agrippa mon sweater et le déchira de haut en bas, arrachant les lunettes de vision nocturne que j'avais autour du cou. Je lui décochai un coup de pied dans la tête et il s'écroula sur le pont. Le lieutenant avait sorti entre-temps son pistolet à fléchette. Voyant qu'il ne pouvait pas me tirer dessus sans risquer de toucher ces deux hommes, il m'assena un grand coup sur le crâne avec la crosse. Les pistolets à fléchettes ne sont ni massifs ni très lourds. Le coup me fit voir quelques étincelles et me fendit le cuir chevelu, mais eut surtout pour résultat de me rendre furieux. Je fis volte-face et frappai du poing le lieutenant au visage. Il partit en arrière en chancelant, heurta le bastingage à hauteur de sa taille, agita les bras et tomba à la renverse. Tout le monde se figea l'espace d'une seconde, tandis qu'il hurlait dans sa chute de 25 mètres jusqu'à la surface de l'eau. Tout le monde se figea, excepté moi, en fait. Les semelles du lieutenant n'avaient pas encore disparu par-dessus le bastingage, que j'avais déjà détalé en enjambant le soldat sur le pont, ouvert la porte du réfectoire et foncé à l'intérieur. Il y avait foule autour de moi. La plupart des hommes se pressaient devant la porte et les fenêtres pour voir ce qui se passait. Mais personne n'essaya de m'arrêter lorsque je me ruais dans le sens opposé, en feintant à travers la salle comme un driver fou avec sa chèvre à travers une équipe de 53 hommes pour marquer un but. Derrière moi, j'entendis la porte qui s'ouvrait et le capitaine ou l'un de ses soldats qui criait
« Baissez-vous ! Dégagez ! Écartez-vous !»
Mes omoplates se ratatinaient à l'idée que les milliers de fléchettes étaient en train de voler vers elles, Mais je ne ralentis pas un seul instant en sautant par-dessus une table, le visage protégé par mes deux mains toujours liées par les menottes, puis en fonçant dans la vitre de la fenêtre, l'épaule droite en avant. L'idée me traversa l'esprit, au moment même où je sautais, qu'il suffisait que la vitre soit en perspex ou en verre intelligent pour que mon aventure se termine ici même en farce totale. Je me vis rebondissant en arrière dans la salle pour être cueilli tranquillement par les soldats ou bien transformé en passoire. C'était d'ailleurs logique, pour une plateforme de ce genre, d'utiliser des matériaux infrangibles pour ses surfaces vitrées. Mais j'avais posé mes doigts dessus quelques minutes plus tôt, et cela avait la consistance du verre. C'était bien du verre. Je me retrouvais sur un panneau d'acier ondulé du toit et continuais de rouler vers le bas, entouré d'une volée d'éclats de verre qui craquaient sous mon poids. J'avais emporté avec moi une partie du petit bois de la fenêtre. Les échardes de bois et le verre collaient à mon gilet et à mon sweater en lambeaux, mais je ne ralentis pas pour m'en débarrasser. Arrivé au bord du toit, j'avais le choix. Mon instinct me conseillait de continuer de rouler jusqu'en bas, afin d'être hors de vue des soldats qui allaient ouvrir le feu sur moi d'un moment à l'autre, en espérant qu'il y avait un couloir en dessous. Mais la logique me dictait de regarder d'abord. Quant à ma mémoire, elle m'affirmait qu'il n'y avait pas de couloir à cette extrémité nord de la plateforme. J'adoptais un compromis, en me laissant rouler par-dessus le toit, mais en me retenant au bord au passage et en penchant la tête pour regarder entre mes jambes ballantes, tandis que mes doigts glissaient peu à peu. Il n'y avait ni pont ni plateforme au-dessous de moi, rien d'autre que 20 mètres de vide entre mes bottes et les flots violets. Les lunes étaient en train de se lever et la mer s'allumait de mille feux. Je me rétablis à la force des bras, suffisamment pour jeter un coup d'œil à la fenêtre à travers laquelle j'avais sauté. Je vis les soldats massés là et baisser la tête juste à temps pour éviter une giclée de fléchettes tirée par l'un d'eux. Le nuage passa à 2 ou 3 centimètres de mes doigts. Le bruit d'abeilles en colère des milliers d'aiguilles d'acier me donna la chair de poule. Il n'y avait pas de passage au-dessous de moi, mais un tuyau courait horizontalement contre la paroi du module. Il faisait de 6 à 8 cm de diamètre, et il y avait peut-être assez d'espace entre lui et la coque pour que j'y glisse les doigts. À condition que le tuyau ne cède pas sous mon poids, que le choc ne me disloque pas l'épaule, que les menottes ne me fassent pas rater mon coup, que, sans réfléchir plus longtemps, je me laissais tomber. Mes avant-bras et l'acier des menottes heurtèrent la canalisation et firent rebondir mes mains. Mais mes doigts réussirent à accrocher le tuyau, et celui-ci tint bon. La deuxième volée de fléchettes pulvérisa le bord du toit et perfora la paroi du module en 1000 endroits. Une pluie d'échardes d'acier dégringola autour de moi au clair de lune, tandis que les hommes hurlaient et juraient là-haut. J'entendis des pas sur le toit. Je me balançais sur le côté aussi rapidement que je le pouvais. Il y avait un bout de pont qui dépassait au coin du module, à 3 mètres sous moi au moins, 4 à 5 mètres plus loin du côté est. Mais je n'y arrivais que très lentement. Mes épaules hurlaient d'inconfort, je ne sentais plus mes doigts à la circulation coupée. Il y avait des échardes de verre dans mes cheveux ou fichées dans mon crâne. Le sang me coulait sur les yeux. Au-dessus de moi, mes poursuivants allaient arriver au bord du toit avant que j'aie pu acquérir suffisamment d'élan pour me lâcher. Soudain, j'entendis des cris et des vociférations. Toute une section du toit venait de s'effondrer à l'endroit où j'étais suspendu. De toute évidence, les fléchettes avaient miné la toiture qui avait cédé sous leur poids. Je les entendis refluer en jurant, puis contourner l'endroit pour arriver jusqu'au bord par une autre route. Cela me donna 8 ou 10 secondes de répit, mais ce fut suffisant pour faire glisser mes mains, l'une après l'autre, jusqu'au bout du tuyau, me balancer une fois, deux fois, me lâcher à la troisième et tomber lourdement sur la plateforme en contrebas, en me laissant rouler contre le bastingage du côté est avec suffisamment de force pour en perdre ma respiration. Je savais que je n'avais pas le temps de rester là pour reprendre mon souffle. Je me redressai rapidement pour gagner la section du pont qui était plongée dans l'obscurité sous le module. Au moins 2 pistolets à fléchettes firent feu. Le premier me manqua et piqueta la surface de l'eau 15 mètres plus bas. L'autre martela le bout du pont comme si 100 de pistolets cloueurs étaient partis en même temps. Je pris mes jambes à mon cou en sinuant parmi les poutrelles et en me penchant pour essayer d'apercevoir quelque chose dans le labyrinthe d'ombre au-dessous de moi. Des pas résonnèrent quelque part au-dessus de ma tête. Ils avaient sur moi l'avantage de connaître parfaitement la disposition des ponts et des escaliers, mais j'étais le seul à savoir où j'allais. Je me dirigeais vers le pont le plus bas et le plus à l'est, où j'avais laissé le tapis. Mais l'entrepont de maintenance où je me trouvais en ce moment donnait sur une longue coursive orientée nord-sud. Lorsque j'eus parcouru suffisamment de distance pour être sûr d'être à hauteur du pont est, je me hissai sur une poutrelle qui devait faire 6 cm de section et, balançant mes bras menottés, tantôt à gauche, tantôt à droite, pour conserver mon équilibre, traversai l'espace découvert qui me séparait de la poutrelle verticale suivante. Au bout de la poutre, je refis la même chose en obliquant au nord, puis au sud à la nouvelle jonction. Chaque fois, lorsque la poutre prenait fin, j'en trouvais une nouvelle qui allait vers l'est. Des trappes s'ouvraient et des pas résonnaient sur les passerelles de service sous le pont principal, mais je fus le premier à atteindre le pont est. Je m'y laissais tomber, trouvais le tapis là où je l'avais laissé attaché à une poutre, le déroulais, actionnais les fils de commande, et m'envolait par-dessus le bastingage juste au moment où une trappe s'ouvrait au-dessus de l'escalier qui descendait sur le pont. J'étais à plat ventre sur le tapis, essayant d'offrir la silhouette la plus réduite possible sur fond de lune et de vagues scintillantes, actionnant les fils de vol avec la plus grande prudence à cause des menottes. Mon instinct me conseillait de voler vers le nord, mais je savais que ce serait une erreur. La portée des fléchettes ne dépassait pas 60 ou 70 mètres. Mais quelqu'un, là-haut, devait avoir un fusil à plasma ou une arme équivalente. Pendant que tout le monde me cherchait du côté est de la plateforme, j'avais intérêt à voler vers le sud ou l'ouest. Je virais sur ma gauche, passais sous les poutrelles, et frôlais la crête des vagues en prenant vers l'ouest, sous le bord protecteur de la plateforme. Un seul pont était ensaillé à cet endroit, celui duquel j'avais sauté, et il était vide à son extrémité nord. Pas seulement vide, constatai-je, mais criblé de trous de fléchettes et probablement sur le point de crouler si quelqu'un marchait dessus. Je passai par-dessous et continuai mon vol en direction de l'ouest. Il y avait des bruits de bottes sur les passerelles supérieures, mais ceux qui m'apercevraient à travers la forêt de pylônes et de poutrelles auraient du mal à m'ajuster s'ils voulaient me tirer dessus. J'émergeais de dessous le tablier de la plateforme pour entrer dans la zone d'ombre projetée par les lunes, à présent bien plus haute sur l'horizon. Je rasais littéralement les vagues, en m'efforçant de garder leur longue crête entre la station et moi. J'avais déjà parcouru une 60aine de mètres et commençais à pousser un soupir de soulagement lorsque j'entendis un clapotis et des toussotements à quelques mètres sur ma droite, juste après la crête la plus proche. Je compris aussitôt de quoi il s'agissait, ou plutôt de qui. C'était le lieutenant que j'avais envoyé à l'eau par-dessus le bastingage. Ma première impulsion fut de continuer sans m'arrêter. La plateforme derrière moi était en proie à la confusion. Il y avait des cris et des coups de feu du côté nord, d'autres cris du côté est où j'avais disparu, mais personne ne semblait m'avoir vu ici. Cet homme m'avait frappé sur la tête et m'aurait tué sans hésitation si ses copains n'avaient pas été dans sa ligne de mire. Le fait d'avoir été déporté jusqu'ici par le courant était bien malheureux pour lui, mais je n'y pouvais rien. Je pourrais le déposer à la base de la plateforme, sur une des poutrelles, peut-être. Je m'en suis déjà tiré une fois, je peux recommencer. Cet homme ne faisait que son devoir. Il ne mérite pas de mourir pour ça. Honnêtement, je dois avouer que je haïssais ma conscience dans des moments pareils. Mais il n'y en avait pas eu beaucoup comme ça dans ma vie, à vrai dire. J'immobilisais le tapis juste au-dessus des vagues. J'étais toujours couché sur le ventre, rentrant la tête et les épaules afin de ne pas être vu des hommes de la plateforme. Je me penchais sur la droite pour essayer de repérer la source des toussotements et du clapotis. La première chose que j'aperçus, ce fut les poissons. Ils avaient une nageoire caudale semblable à celle des squales de l'ancienne terre, que j'avais vue en représentation au lot, ou à celle des dos de sabre cannibales de la grande mer du sud d'Hyperion, mais avec deux ailerons dorsaux brillants au lieu d'un. Je les distinguais très clairement au clair de lune. Ils semblaient scintiller d'une douzaine de couleurs différentes depuis les deux ailerons jusqu'au ventre. Ils faisaient environ 3 mètres de long, et se déplaçaient comme des prédateurs à puissants coups de queue. Leurs dents étaient très blanches. Suivant l'un de ces tueurs à travers la houle, j'arrivais jusqu'au lieutenant. Il se débattait désespérément pour maintenir sa tête hors de l'eau, tout en pivotant sur lui-même pour essayer de garder les tueurs à distance. De temps à autre, l'une des créatures à double aileron fonçait sur lui dans les eaux violettes, et il essayait de la repousser à coups de botte sur la tête ou dans les ailerons. Le poisson faisait volte-face, mais revenait inévitablement à la charge. D'autres arrivaient sans cesse, et le cercle se refermait sur le lieutenant épuisé.
« Merde !» murmurai-je. Je ne pouvais pas le laisser comme ça.
Je tapais d'abord le code qui désactivait le champ de confinement du tapis, conçu pour protéger du vent à grande vitesse, mais aussi pour empêcher les occupants du tapis, particulièrement les enfants, de tomber par-dessus bord. Si je devais hisser cet homme à mes côtés, je n'avais pas envie de me battre aussi contre un champ EM activé. Je fis ensuite glisser le tapis au ras de l'eau jusqu'à l'endroit où je l'avais vu. Il n'était plus là. Il avait coulé. J'envisageais un instant de plonger, mais aperçus la forme pâle de ses bras en train de s'agiter juste au-dessous de la surface. Les espèces de squales faisaient des cercles de plus en plus rapprochés, mais n'attaquaient pas encore. C'était peut-être l'ombre du tapis qui les déconcertait. Je plongeais mes deux mains menottées dans l'eau, réussis à saisir un poignet et le hissais. Son poids faillit me faire basculer, mais je me penchais en arrière, retrouvais mon équilibre et raffermis suffisamment ma prise pour le tirer par le pantalon et le déposer, ruisselant et crachant de l'eau, sur le tapis. Il était blanc comme un linge et grelottait de froid. Mais après avoir craché et vomi de l'eau de mer, il sembla reprendre une respiration normale, ce dont je ne pus que me réjouir. Je n'étais pas sûr, en effet, que ma générosité s'étende jusqu'au bouche à bouche. Après m'être assuré qu'il était suffisamment loin du bord du tapis pour ne pas risquer de se faire happer un bras ou une jambe par ces créatures, je me tournai vers les commandes et remis le cap sur la plateforme en volant un peu plus haut au-dessus de l'eau. Fouillant dans les poches de mon gilet, je trouvai l'unité com et tapai le code qui faisait exploser le plastique sur les ponts des ornis et des glisseurs. J'avais l'intention de m'approcher de la plateforme en venant du sud, où il me serait possible de m'assurer que ces ponts étaient déserts. Je transmettrai alors le code à l'aide d'une seule touche, puis, dans la confusion qui suivrait l'explosion, je contournerai la plateforme pour arriver par l'ouest, déposer le lieutenant au premier endroit sec que je trouverai, puis repartir. Je me tournai vers l'officier de la Pax pour voir s'il respirait bien, mais vis, en un instant, qu'il s'était redressé sur un genou et tenait quelque chose de brillant à la main, qu'il me plongea dans le cœur. Du moins, cela m'aurait directement percé le cœur si je n'avais pas eu le réflexe de m'écarter durant la fraction de seconde qu'il fallut au poignard pour traverser le gilet, le sweater et la peau. Malgré tout, la courte lame me déchira le côté et toucha une côte. Ce ne fut pas tant de la douleur que je ressentis sur le moment, mais plutôt un choc, littéralement électrique. Je poussai un cri et voulus lui saisir le poignet. La lame plongea de nouveau vers moi, plus haut et plus vite cette fois-ci. Mes mains, glissantes d'eau de mer et de mon propre sang, dérapèrent sur son bras. Je ne pus que dévier le cou vers le bas avec l'attache qui reliait les bracelets de mes menottes, tandis qu'il me poignardait en un mouvement descendant cette fois-ci, qui m'aurait transpercé le cœur au niveau de la même côte si mon bras ne l'avait pas ralenti et si l'unité com, dans la poche de mon gilet, n'avait pas dévié la lame. Celle-ci pénétra cependant dans ma chair et j'eus un mouvement de recul tandis que le tapis Hawking continuait de s'élever. J'eus vaguement conscience des explosions qui retentissaient derrière moi. La lame avait dû toucher le bouton qui les activait. Je ne me retournai pas pour regarder ce qui se passait. Je retrouvais mon équilibre, les pieds écartés. Le tapis s'élevait toujours. Nous devions être à présent à 8 ou 10 mètres de la surface. Le lieutenant avait bondi sur ses pieds en même temps que moi, adoptant instinctivement la posture d'un combattant au couteau. J'ai toujours détesté les armes blanches. J'ai dépiauté et vidé dans ma vie d'innombrables gibiers et poissons, mais je n'ai jamais pu comprendre, même quand j'étais dans la garde nationale, comment des humains pouvaient faire de telles choses à d'autres humains. J'avais un poignard passé dans ma ceinture, quelque part, mais je savais que je n'étais pas de taille à me battre contre cet homme. Mon seul espoir était de sortir mon automatique de son étui, et c'était un mouvement difficile. Le pistolet était contre ma hanche gauche, la crosse en avant pour que je puisse dégainer avec la main opposée, mais il me fallait à présent utiliser les deux mains en écartant le gilet, puis ouvrir l'étui, sortir l'arme et viser. Il me lacéra le corps de gauche à droite. Je fis un bond en arrière jusqu'au bord du tapis, mais trop tard. La petite lame acérée avait déjà tranché dans la chair et les muscles de mon bras droit, qui essayait de sortir le pistolet. La douleur m'arracha un hurlement perçant. Le lieutenant sourit de toutes ses dents encore luisantes d'eau de mer. Toujours accroupi, sachant bien que je n'avais aucune retraite possible, il fit un demi-pas en avant et leva son poignard en un arc de cercle mortel destiné à m'éviscérer. J'étais en train de me tourner sur la droite quand il m'avait touché la première fois, et j'accentuais le mouvement pour plonger du tapis, mes mains liées tendues dans le prolongement de mon corps d'une hauteur de 10 mètres. Lorsque je brisais la surface de l'eau, elle était noire et salée. Je n'avais pas beaucoup retenu d'air dans mes poumons et, durant un terrible moment de cauchemar, je fus incapable de dire où étaient le haut et le bas. Puis, je distinguais la clarté des trois lunes et m'élevais d'un coup de talon dans cette direction. Ma tête émergea juste à temps pour voir le lieutenant, toujours accroupi, au milieu du tapis Hawking, qui continuait à grimper. Il était maintenant à 25 mètres de la surface et s'était rapproché d'une trentaine de mètres de la plateforme. Il penchait la tête pour me regarder, comme s'il attendait que je remonte pour achever le combat. Je n'allais pas remonter, mais j'avais bien l'intention de continuer à me battre. Gigotant dans l'eau, je réussis à défaire l'étui, sortis le gros pistolet et m'efforçais de faire la planche pour orienter correctement ce foutu truc. Ma cible ne cessait de faire des bonds et de disparaître, mais se silhouettait nettement contre la grosse lune tandis que j'armais le pistolet et visais en essayant de ne pas trembler. Le lieutenant avait renoncé à me suivre des yeux et s'était tourné vers la plateforme où les hommes ouvrirent le feu. Ils furent plus rapides que moi d'une seconde ou deux. J'ignore si j'aurais fait mouche à cette distance, mais il était impossible pour eux de rater. Au moins trois volées de fléchettes l'atteignirent successivement. Il fut arraché au tapis comme un paquet de linge sale lancé en l'air. Je vis littéralement la lumière des lunes à travers son corps criblé de fléchettes qui s'abattaient dans les vagues. Une seconde plus tard, un des pseudo-squales multicolores me frôla l'épaule dans sa précipitation à rejoindre la masse de chair sanglante qui avait été le lieutenant de la Pax. Toujours flottant sur le dos, je suivis des yeux le tapis Hawking jusqu'au moment où quelqu'un sur la plateforme s'en saisit. J'avais puérilement espéré qu'il ferait un cercle pour revenir jusqu'à moi et qu'il m'arracherait, pourquoi pas, à l'océan pour me conduire à mon radeau, qui devait se trouver à 1 ou 2 kilomètres de l'endroit où je me trouvais. Je m'étais attaché à ce tapis Hawking. J'étais fier de faire partie du mythe et de la légende qu'il représentait. Lorsque je le vis disparaître à jamais de mon existence, cela me noua l'estomac. C'était peut-être aussi l'eau salée et mes blessures combinées qui me nouaient l'estomac, tandis que je flottais sur l'océan en m'efforçant de maintenir mon pistolet chargé hors de l'eau. Si je voulais nager, il fallait que je me débarrasse de mes menottes. Mais comment faire? L'attache d'acier central n'avait que la moitié de l'épaisseur de mon poignet. J'avais beau me contorsionner, j'étais incapable d'aligner le canon du pistolet avec elle pour la sectionner d'une balle. Et pendant ce temps, les nageoires caudales commençaient à s'éloigner du lieutenant. Je saignais beaucoup aux côtés et aux bras. Si ces créatures étaient comme les requins ou les dos de sabre que je connaissais, elle devait être capable de repérer le sang à des kilomètres. Mon seul espoir était de nager tant bien que mal vers la plateforme, d'utiliser mon pistolet pour me débarrasser du premier pseudo-squale qui s'attaquerait à moi, de grimper sur l'un des pylônes et de me hisser sur la plateforme ou de hurler pour que l'on vienne me sortir de là. C'était tout ce que je pouvais faire. D'un coup de rein, je me mis sur le ventre et commençai à nager vers le nord, en direction du large. J'avais déjà passé pas mal de temps sur cette plateforme et j'estimais que ça suffisait comme ça. Chapitre 34. C'était la première fois que j'essayais de nager les mains liées devant moi. J'espère de tout mon cœur que je n'aurai plus jamais à le faire de ma vie. Seule la très forte salinité de cet océan me maintenait à flot, tandis que je me propulsais à coups de talons vers le nord. Je n'avais pas réellement d'espoir de retrouver mes compagnons. Le courant devenait assez fort à 1 kilomètre au nord de la station, et nous avions fait tout cela pour essayer de maintenir le radeau aussi loin que possible de la plateforme, sans pour autant quitter la rivière dans la mer. Au bout de quelques minutes de répit, les squales multicolores recommencèrent à tourner autour de moi. Leurs couleurs miroitantes étaient visibles de loin sous les vagues. Lorsque l'un d'eux attaquait, je cessais de nager et lui donnais un coup de botte dans la tête, à l'endroit précis où j'avais vu le lieutenant faire de même. Cela parut marcher. Ces poissons étaient mortellement dangereux, mais d'une stupidité incroyable. Ils attaquaient tour à tour, comme s'il y avait une sorte de hiérarchie parmi eux. Je les frappais l'un après l'autre, mais ce petit jeu était épuisant. J'avais commencé à enlever mes bottes juste avant leur premier assaut, car leur poids m'entraînait vers le bas. Mais l'idée d'offrir mes pieds nus aux dents de ces monstres ne me plaisait guère, et je les avais finalement gardés. Je décidai par contre que je ne pouvais pas nager avec le pistolet dans les mains. Les squales plongeaient au moment d'attaquer et remontaient presque verticalement vers moi. Je ne pensais pas qu'une balle tirée à travers 2 mètres d'eau puisse avoir un effet très dévastateur sur eux. Je rangeai donc l'arme dans son étui, mais son poids me fit regretter, au bout d'un moment, de ne pas l'avoir lâchée complètement. Flottant tant bien que mal, pivotant régulièrement pour surveiller l'approche des caudales, je finis par ôter mes bottes pour les laisser tomber dans les profondeurs sous-marines. Quand le squale suivant attaqua, je le frappai du talon encore plus fort et sentis sa peau, comme du papier de verre, au-dessus de son minuscule cerveau. Il fit claquer méchamment ses mâchoires en direction de mon pied nu, mais demeura à distance en décrivant de nouveaux cercles. C'est ainsi que je poursuivis ma route vers le nord, nageant sur quelques mètres, me laissant flotter, décochant des coups de pied, jurant, puis recommençant à nager en attendant l'attaque suivante. Sans la combinaison des lunes et des multiples couleurs de la peau des squales, je n'aurais pas tardé à me faire happer par l'un d'eux. J'atteignis néanmoins le point où j'étais trop épuisé pour continuer à nager. Je ne pouvais plus rien faire d'autre que me laisser flotter sur le dos, haletant, en ruant machinalement chaque fois que j'apercevais des reflets colorés dans l'eau. Mes blessures commençaient à être très douloureuses. La plus profonde, entre 2 côtes, me brûlait atrocement et irradiait sur tout le côté. J'étais certain de me vider de tout mon sang. À un moment, alors que les squales me laissaient un répit, je me tâtais le côté et sortis les mains de l'eau pour les regarder. Elles étaient rouges, d'un rouge plus vif que le violet de l'océan à la lueur de la grosse lune, à présent au-dessus de l'horizon. Je me sentais extrêmement faible. L'eau était devenue plus chaude, comme si c'était mon sang qui lui donnait quelques degrés de plus. La tentation de fermer les yeux et de me laisser sombrer devenait de plus en plus forte. J'avoue cependant que chaque fois que la houle me soulevait, je regardais par-dessus mon épaule pour essayer d'apercevoir le radeau au nord. Mais le miracle espéré ne se produisit pas. Une partie de moi s'en réjouissait. Aîné et l'androïde avaient sans doute réussi à franchir le portail sans se faire intercepter. Je n'avais vu dans le ciel aucun glisseur ni orni, et la plateforme en flammes était à peine visible au sud. Je me dis que mon seul espoir, maintenant que je savais mes compagnons en sécurité, était d'être repéré par une patrouille de recherche, mais c'était une idée qui ne me plaisait pas tellement. Je ne tenais pas à retourner sur cette plateforme. Flottant sur le dos, tordant le cou et la tête pour ne pas perdre de vue les caudales des squales multicolores, je me propulsais toujours vers le nord, soulevé par chaque mouvement de houle, glissant dans les creux de la mer qui semblait respirer formidablement. J'avais appris la meilleure façon de tenir mes mains menottées devant moi, à hauteur de mon front, mais j'étais si épuisé que je n'arrivais plus à maintenir ma tête hors de l'eau. Mon bras droit semblait saigner encore plus abondamment que tout à l'heure, et paraissait 3 fois plus lourd que le gauche. La lame du lieutenant m'avait peut-être tranché un tendon. Finalement, je fus obligé de cesser de me propulser pour me concentrer simplement sur l'effort de flotter. Je devais remuer les jambes en permanence pour garder la tête hors de l'eau et cela m'épuisait. Les pseudo-squales semblaient avoir deviné ma faiblesse. Ils chargeaient l'un après l'autre les mâchoires ouvertes. Chaque fois, je les cognais des deux pieds sur le museau ou la boîte crânienne, en essayant de ne pas me faire arracher un morceau de chair. Leur peau était si rêche que j'avais les talons et la plante des pieds en sang, ajoutant ainsi à la quantité d'hémoglobine qui m'entourait dans l'eau. Cela rendait encore plus folles les créatures affamées. Leurs assauts s'accéléraient tandis que mes ruades perdaient de leur force. L'un des monstres arracha la jambe de mon pantalon du genou à la cheville, emportant avec un lambeau de peau tandis qu'il s'éloignait d'un coup de queue triomphant. Une partie de mon esprit exténué, pendant ce temps, faisait de la théologie. Je ne veux pas dire par là que j'étais en train de prier, mais je me demandais comment un dieu véritablement cosmique pouvait laisser ses créatures se torturer les unes les autres de cette manière. Combien d'hominiens, de mammifères et d'autres créatures par trillion avaient passé les dernières minutes de leur existence en proie à des terreurs mortelles comme celle-ci, le cœur battant, l'adrénaline circulant en eux à toute vitesse, en les épuisant davantage, leur petit cerveau cherchant désespérément un moyen d'échapper à leur sort. Comment une divinité quelconque pouvait-elle se définir comme un dieu de miséricorde tout en emplissant l'univers de telles créatures? Je me souvenais des histoires que me racontait Grand Dame à propos d'un très ancien savant de la Terre nommé Charles Darwin, qui avait conçu l'une des premières théories de l'évolution, ou peut-être de la gravitation, quelque chose comme ça, et qui, bien qu'ayant reçu une éducation chrétienne longtemps avant l'avènement du cruciforme, était devenu athée en étudiant une guêpe terrestre qui paralysait une grosse araignée, introduisait son embryon dans son abdomen et laissait l'araignée s'en aller pour vaquer à ses occupations jusqu'au moment où la larve, ayant grandi, creusait un tunnel pour s'échapper dans le ventre de l'araignée vivante. Je secouais la tête pour chasser l'eau qui me voilait la vision et décochais une ruade à un squale qui m'attaquait. Je ratais la tête, mais touchais l'un des ailerons sensibles. Il me fallut replier les jambes en boule pour éviter d'être happé. Le mouvement me fit couler. Je fus englouti momentanément par une vague, avalai un peu d'eau salée et remontai à la surface, aveuglé et haletant. D'autres nageoires caudales étaient en train de se rapprocher. J'avalai encore un peu d'eau, me débattis, les mains engourdies, pour ressortir le pistolet de son étui et faillit le lâcher avant de pouvoir en caler le canon sous mon menton. Je me dis soudain que le mieux serait peut-être de le laisser ainsi et de presser la détente plutôt que d'essayer de l'utiliser contre les squales tueurs. Mais il restait plusieurs projectiles dans le chargeur. Je pourrais donc conserver cette option. Tandis que le squale le plus proche se préparait à attaquer, je me souvins d'une histoire que Grande Dame m'avait lue lorsque j'étais petit. C'était également un classique. Son auteur était Stephen Crane et l'histoire s'appelait Le bateau ouvert. Elle racontait comment un groupe d'hommes avait survécu au naufrage de leur navire durant plusieurs jours, sans eau douce, pour être finalement bloqués à quelques centaines de mètres de la côte par une barrière de vagues si haute qu'il était impossible de les franchir sans chavirer. L'un des hommes de la chaloupe, j'ai oublié de quel personnage il s'agissait, avait fait le tour de toutes les spéculations théologiques. La prière, l'idée que Dieu était une puissance bienveillante qui se penchait chaque soir sur son sort, puis la pensée amère que Dieu n'était qu'un salaud plein de cruauté, et, finalement, la conclusion que personne n'était là pour écouter. Je comprenais maintenant que j'avais mal interprété cette histoire, malgré les questions socratiques de Grande Dame et ses indications éclairées. Je croyais me rappeler que l'illumination était descendue sur lui, tandis qu'il comprenait qu'il leur faudrait peut-être tenter leur chance à la nage et que tous n'allaient peut-être pas survivre. Il aurait voulu que la nature, car c'était ainsi, désormais qu'il désignait l'univers, soit un énorme immeuble de verre contre lequel il aurait pu jeter des pierres. Mais même cela, se disait-il, n'aurait servi à rien. L'univers est indifférent à notre sort. Tel est le poids écrasant que le personnage emportait avec lui, tandis qu'il se débattait dans les vagues pour aller vers la survie ou l'extinction. L'univers s'en fout complètement. je me rendis compte que je riais et pleurais en même temps. Je lançais des imprécations et des invitations au dos de sabre qui n'était qu'à 2 ou 3 mètres de moi. Je levais le pistolet au ras des flots et tirais en direction de l'aileron le plus proche. Le plus étonnant, c'est que l'engin mouillé fonctionna. Mais le bruit, qui semblait assourdissant sur le radeau, était maintenant englouti par les vagues et l'immensité de la mer. Le poisson plongea et disparut. 2 autres m'attaquèrent. Je tirai sur le premier et donnai un coup de talon au second juste au moment où quelque chose me cogna durement la nuque. Je n'étais pas suffisamment perdu dans mes pensées philosophiques et théologiques pour être prêt à mourir. Je pivotais vivement, ignorant à quel point ma nouvelle morsure pouvait être grave, mais décidé à abattre ce foutu squale dans la gueule s'il le fallait. J'étais sur le point de presser la détente lorsque j'aperçus le visage d'aîné à moins de 50 centimètres du mien. Ses cheveux mouillés étaient collés à son front et ses yeux noirs brillaient au clair de lune.
« Roll !»
Ce n'était pas la première fois qu'elle criait mon nom. Mais je ne m'en apercevais que maintenant, tant j'étais assourdi par les détonations et le sifflement de l'eau dans mes oreilles. Je battis plusieurs fois des paupières pour chasser l'eau de mer qui m'obscurcissait la vue. Cette vision ne pouvait pas être réelle. Seigneur, qu'aurait-elle fait ici, au milieu de la mer, loin du radeau ?
Roll !
Cria-t-elle de nouveau.
Laisse-toi flotter sur le dos ! Sers-toi du revolver pour garder ces créatures à distance ! Je vais te guider !
Je secouai la tête. Je n'y comprenais rien. Pourquoi aurait-elle laissé le puissant androïde à bord du radeau pour venir me chercher à la nage ? Comment se faisait-il que... Le crâne bleu de Abétique apparut à la faveur de la vague suivante. L'androïde nageait rapidement, la machette entre les dents. J'avoue que ce spectacle me fit rire à travers mes larmes. Il me faisait penser à un film de pirates holo à bon marché.
« Sur le dos !»
répéta la fillette. Je fis ce qu'elle me disait. J'étais trop épuisé pour décocher une nouvelle ruade au squale qui me chargeait. Je lui tirais dessus entre mes pieds et je le touchais entre ses 2 yeux noirs et ternes. Les 2 ailerons disparurent dans les flots. Aîné passa un bras autour de mon cou, sa main gauche sous mon bras droit pour éviter de m'étrangler. Puis elle nagea vigoureusement dans la crête de la vague suivante. Abétique nageait à côté d'elle, mais d'un seul bras. L'autre était occupé à donner des coups de machette dans l'eau. Je vis 2 ailerons sursauter et dévier leur course vers la droite.
« Mais qu'est-ce que tu... »
commençais-je. Je m'étouffais et me mis à tousser et à recracher de l'eau.
« Économise ton souffle !»
me dit aîné en m'entraînant dans un creux de la houle.
« Il y a un long chemin à faire !»«
Le pistolet !»
J'essayais de le lui glisser dans la main, mais les ténèbres engloutissaient ma vision comme un tunnel de plus en plus étroit. Je ne voulais pas perdre l'arme. Mais il était trop tard. Je la sentis m'échapper et couler.
« Désolé !»
réussis-je à dire avant d'être totalement englouti. Ma dernière pensée consciente fut un inventaire de tout ce que j'avais perdu lors de ma première expédition en solo. Le précieux tapis Hawking, mes lunettes de vision nocturne, le pistolet automatique ancien, mes bottes, probablement l'Unitecom, et peut-être ma vie et celle de mes compagnons. À la fin de ces spéculations cyniques, le néant s'empara de moi. J'eus vaguement conscience d'être hissé sur le radeau. Mes poignets étaient libres, les menottes sectionnées. Aîné soufflait dans ma bouche et exerçait des mains une pression sur mes poumons pour en chasser l'eau. Abétique était à genoux, à côté de nous. Il tirait très fort sur un cordage. Après avoir recraché de l'eau salée durant plusieurs minutes, je demandais
« Le radeau ? Comment ? Il aurait dû franchir le portail depuis longtemps ?»
Elle repoussa ma tête en arrière contre un paquetage et découpa ma chemise et la jambe droite de mon pantalon en lambeaux à l'aide d'un petit couteau.
Abétique a confectionné une sorte d'encre flottante avec la micro-toile de tente et la corde à grimper,
me dit-elle.
Cela nous a freinés suffisamment sans nous faire perdre notre cap. C'est ce qui nous a donné le temps de te retrouver.
Comment ? Murmurai-je, interrompu par un nouveau vomissement d'eau salée.
Ne parle pas.
Me dit aîné en finissant de déchirer ma chemise.
Je veux voir ta blessure.
Je frémis tandis que ses petites mains fortes effleuraient ma plaie béante au côté. Ses doigts suivirent ensuite la profonde coupure que j'avais au bras, puis descendirent jusqu'à ma cuisse où le squale m'avait enlevé un lambeau de peau et de chair jusqu'au mollet.
« Roll !» murmura-t-elle. « Je te quitte des yeux une heure ou deux et vois dans quel état je te retrouve. »
J'étais de nouveau saisi par un invincible accès de faiblesse. Le néant me menaçait. J'avais perdu trop de sang.
« Désolé !»
murmurai-je.
« Tais-toi !»
Elle déchira la plus grosse de nos trousses d'urgence avec un bruit qui me fit grincer des dents.
« Ne dis plus rien !»
fit aînée.
« Non !»
insistai-je.
« J'étais censé te protéger, te servir de garde du corps.
J'ai tout raté.
Pardonne-moi. »
Je poussai un cri lorsqu'elle versa une solution antiseptique au sulfamide directement sur ma plaie intercostale. J'avais vu des hommes pleurer dans ces cas-là sur le champ de bataille. À présent, je faisais partie du nombre. Si elle s'était servie de la trousse moderne de mon paquetage, je suis certain que je n'aurais pas survécu plus de quelques minutes, sinon quelques secondes. Mais ce fut le gros paquetage qu'elle ouvrit, celui de la force, que nous avions pris à bord du vaisseau. Ma première pensée fut que toutes les substances qu'il contenait étaient périmées, mais je vis clignoter les lumières sur le Medipack qu'elle posa sur ma poitrine. Certaines étaient vertes, la plupart jaunes et un certain nombre rouges. Je savais d'instinct que ce n'était pas bon.
« Ne bouge pas !»
murmura aînée. Elle déchira un nécessaire stérile de suture. Elle posa le sachet transparent contre ma blessure et le mille-pattes sutural à l'intérieur prit vie et rampa sur la plaie. La sensation n'était guère plaisante. La forme de vie génétiquement manipulée s'insinua entre les lèvres boursouflées de ma plaie, y sécréta ses produits désinfectants et antibiotiques, puis tendit ses deux séries de multiples pattes d'un bord à l'autre pour former une solide suture. Les larmes me montèrent de nouveau aux yeux, puis cela recommença lorsqu'elle répéta l'opération sur mon bras.
« Il n'y a pas assez de cartouches à plasma !»
murmura-t-elle à l'androïde. Elle inséra deux petits cylindres dans le système d'injection. Je sentis une brûlure à la cuisse tandis que le plasma pénétrait dans mes veines.
« Nous n'avons que ces quatre-là !» répondit Abétique.
Il me posa un masque à osmose sur la figure. L'oxygène pur commença bientôt à irriguer mes poumons.
« Zut !»
fit aînée en m'injectant la dernière cartouche de plasma.
« Il a perdu trop de sang. Il est en train de tomber dans les pommes. »
Je voulais discuter avec eux, leur expliquer que je tremblais uniquement parce qu'il faisait froid et que je me sentais bien mieux. Mais le masque à osmose me paralysait la bouche, le nez et les yeux. Je ne pouvais pas parler. Un instant, j'eus une hallucination où je nous revis à bord du vaisseau spatial, figé par la bulle anti-crash. Je pense que l'eau salée qui coulait sur mes joues à ce moment-là ne venait pas de l'océan. J'aperçus alors l'injecteur à ultramorphine entre les mains d'aînée et commençai à me débattre. Je ne voulais pas être endormi. Si je devais mourir, je voulais avoir toute ma tête quand la chose se produirait. Aînée me repoussa gentiment contre le paquetage. Elle comprenait ce que j'essayais d'exprimer.
« Il le faut, Roll, » murmura-t-elle. « Laisse-toi aller. Tu es en état de choc. Il faut stabiliser tes fonctions vitales. Ce sera plus facile si tu perds connaissance. »
J'entendis l'injecteur siffler. Je me débattis encore deux ou trois secondes, pleurant à présent des larmes de frustration. Après tous ces efforts pour survivre, glisser ainsi dans le néant, ce n'était pas juste. Je ne le méritais pas. Lorsque je repris connaissance, il faisait jour et terriblement chaud. Un instant, je fus certain de me trouver encore sur l'océan de Mare Infinitus. Mais lorsque je rassemblais suffisamment d'énergie pour soulever ma tête, je vis que le soleil était différent, plus large et plus chaud, et que le ciel était d'un bleu bien plus pâle. Le radeau semblait se déplacer entre les berges d'une sorte de canal en béton, à moins de 2 mètres de chaque côté. Je ne voyais rien d'autre que le béton, le soleil et le bleu du ciel.
« Reste tranquille, »
me dit aînée. Elle repoussa ma tête et mes épaules contre le paquetage, et régla la micro-toile pour que mon visage soit de nouveau dans l'ombre. De toute évidence, ils avaient récupéré leur encre flottante. J'essayais de parler, sans succès. Je m'humectais les lèvres. Elles semblaient hermétiquement cousues. Finalement, je parvins à demander « Combien de temps suis-je resté sans connaissance ?» Aîné me fit boire à ma propre gourde avant de me répondre « Une trentaine d'heures.
Une trentaine ?»
Même quand je voulais crier, il ne sortait de mes lèvres qu'un maigre couinement. Abétik émergea de dessous la tente et vint s'accroupir à côté de nous.
« Bienvenue de nouveau parmi nous, à Chandimion, » me dit-il.
« Où sommes-nous ?»
Ce fut Aîné qui me répondit.
« À en juger par le désert qui nous entoure, le soleil et la configuration des étoiles la nuit dernière, il est à peu près certain que nous nous trouvons sur Ebon. Nous suivons actuellement une sorte d'aqueduc. Mais tu peux le voir par toi-même. »
Elle me soutint par les épaules afin de me permettre d'apercevoir le bord du canal. Au-delà, il n'y avait que du vide, avec des collines au loin.
« Ce tronçon est à 50 mètres du sol, »
dit-elle en reposant délicatement ma tête en arrière contre le paquetage.
« C'est ainsi depuis 5 ou 6 kilomètres. Si jamais il y avait une brèche dans l'aqueduc, »
elle sourit tristement.
« Nous n'avons rien vu, ni personne. Pas même un vautour. Nous attendons d'arriver dans une ville. »
Je plissais le front. Dès que je changeais de position, même légèrement, je sentais une raideur au côté et au bras.
Ebron, je croyais qu'elle avait été...
Capturée par les extros, acheva pour moi Abétik.
Oui, ce sont les informations dont nous disposons également. Mais cela n'a pas d'importance à Chandimion.
Nous demanderons aux extros de nous apporter leur assistance médicale avec autant de plaisir, ou plus, que nous ne le ferions si c'était la Pax. Je baissai les yeux vers le Medipack, à présent posé à côté de moi. Des filaments pénétraient ma poitrine, mon bras et mes jambes. La plupart des voyants clignotaient dans le jaune-orange. Ce n'était pas très bon.
« Tes plaies sont nettoyées et refermées, » me dit Aîné. Nous t'avons injecté tout le plasma dont nous disposions. Il t'en faut encore. Et j'ai l'impression que tu fais une infection dont les antibios à large spectre sont incapables de venir à bout.
C'était l'explication de la terrible fébrilité que je sentais en moi.
C'est peut-être dû à un micro-organisme propre à l'océan de Mare Infinitus, suggéra Abétik. Le Medipack est incapable de fournir un diagnostic précis. Nous saurons à quoi nous en tenir quand vous serez hospitalisés. Nous pensons que ce tronçon du Tétis va nous mener à la seule cité d'Hébron.
« La nouvelle Jérusalem, » murmurai-je.
« C'est exact, » fit l'androïde. Même après la chute, elle est restée célèbre pour son centre médical du Sinaï.
Je voulus secouer la tête, mais une douleur vertigineuse me figea.
« Les extros, »
commençai-je. Aîné posa un linge mouillé sur mon front.
« Tu as besoin d'aide, » me dit-elle. « Extro ou pas extro ?»
Une pensée était en train d'essayer de se forcer un chemin dans mon cerveau embrumé. J'attendis qu'elle perce.
« Ebron n'avait pas... Je ne crois pas qu'elle ait eu... »
« C'est vrai, »
me dit Abétik en donnant une tape sur le petit livre qu'il tenait à la main.
D'après ce guide, Ebron ne faisait pas partie du circuit du Tétis et ne possédait qu'un seul terminal d'Istrance, situé à la Nouvelle-Jérusalem, même au temps de la splendeur du Retz. Les visiteurs d'Outre-Monde n'avaient pas le droit de sortir de la capitale. On a toujours apprécié l'indépendance et la tranquillité ici.
Je regardais les parois de l'aqueduc en train de défiler. Nous avions soudain quitté les hauteurs pour nous déplacer au milieu de très hautes dunes et de rochers brûlés par le soleil. La chaleur était suffocante.
« Le guide doit se tromper, »
fit Aîné en m'essuyant de nouveau le front.
« Le portail d'Istrance était bien là. La preuve, c'est que nous sommes ici. »«
Es-tu sûr qu'il s'agit bien d'Ebron ?»
demandai-je d'une voix rauque. Elle hocha la tête. Abétik me montra le bracelet Persoc. Je l'avais complètement oublié. Notre ami électronique a pu faire un relevé sur les étoiles, me dit l'androïde. Cela ne fait aucun doute, nous sommes bien sur Hébron, et je dirais même que quelques heures à peine nous séparent de la Nouvelle Jérusalem. Une douleur fulgurante m'attaqua alors. J'eus beau essayer de la dissimuler, je dus me tordre, car Aîné sortit l'injecteur à ultramorphine.
« Non !»
protestai-je à travers mes lèvres desséchées.
« C'est la dernière dose !»
murmura-t-elle. J'entendis le sifflement et sentis l'engourdissement se répandre en moi. « S'il y a un Dieu, me dis-je, c'est un calmant qu'elle me donne. » Quand je rouvris les yeux, les ombres étaient longues et le soleil était occulté par la façade d'un bâtiment bas. Abétik me portait dans ses bras pour descendre du radeau. Chacun de ses pas était une torture pour moi, mais je ne laissais entendre aucune plainte. Aîné marchait devant. La rue était large et poussiéreuse. Aucun bâtiment n'avait plus de 2 étages. Les constructions semblaient faites en pisé ou quelque chose comme ça. Il n'y avait absolument personne en vue.
« Oh là !»
cria Aîné en mettant ses 2 mains en porte-voix. Les 2 syllabes résonnèrent longuement dans la rue déserte. Je me sentais ridicule à me laisser porter ainsi comme un enfant. Mais Abétik ne faisait pas attention à moi, et je savais que je ne tiendrais jamais sur mes pieds, même si ma survie en dépendait. Aîné revint vers nous, vit que j'avais les yeux ouverts, et nous dit
« C'est bien la Nouvelle Jérusalem, aucun doute là-dessus. D'après le guide, 3 millions de personnes vivaient ici à l'époque du Retz, et il devrait en rester au moins 1 million, d'après les derniers chiffres connus. »
« Les extros ?» balbutiai-je.
Aîné hocha rapidement la tête.
« Les boutiques et les immeubles qui bordent le canal sont déserts, mais ils donnent l'impression d'avoir été habités récemment. Il y a quelques mois ou quelques semaines peut-être. »
D'après les communications captées sur Hyperion, ce monde serait tombé aux mains des extros il y a 3 années standard environ, nous dit Abétik. Mais les signes d'habitation, visiblement, sont bien plus récents que cela.
Le réseau électrique fonctionne toujours,
renchérit Aîné.
La nourriture abandonnée sur les tables a pourri, mais celle qui était au frigo est bien conservée. Dans certaines maisons, la table est dressée pour le dîner. Les faux solos bourdonnent de parasites et la radio grésille. Mais pas le moindre signe de présence.
« Ni de violence »,
fit remarquer l'androïde en me déposant délicatement sur la plateforme métallique d'un véhicule de sol, derrière la cabine. Aîné avait étalé une couverture pour me protéger de la chaleur du métal. La douleur dans mes côtes me faisait voir 1000 lumières qui dansaient devant mes yeux. La fillette se frotta les bras. Elle avait la chair de poule malgré la température torride du soir.
« Quelque chose de terrible a dû arriver ici »,
dit-elle.
« Je le sens. »
J'avoue que, pour ma part, je ne sentais rien d'autre que la fièvre et la douleur. Mes pensées étaient semblables à du mercure. Elles m'échappaient avant que je puisse les saisir ou leur donner une forme cohérente. Aîné grimpa sur la plateforme et s'assit à côté de moi tandis que l'androïde ouvrait la porte de la cabine et s'installait au volant. Chose étonnante, le véhicule partit au quart de tour.
« Je saurai le conduire sans problème, » nous dit l'androïde en démarrant.
« Moi aussi, je sais, » pensai-je muettement. J'ai eu l'occasion d'en conduire un semblable à Ursus. C'est l'une des choses de cet univers que je sais faire fonctionner. Peut-être l'une des rares choses que je sais faire bien. Nous descendîmes la rue principale en cahotant. Chaque secousse me faisait pousser un cri malgré tous mes efforts pour me tenir tranquille. Je serrai les dents. Aîné me tenait la main. Ses doigts étaient si froids qu'ils me faisaient presque frissonner. Je compris que c'était moi qui étais brûlant.
« C'est cette maudite infection, »
me dit-elle.
« Autrement, tu serais en train de guérir. Tu as attrapé un sale truc dans cet océan. »«
Ou à la pointe de ce foutu poignard, »
murmurai-je. Fermant les yeux, je revis le lieutenant déchiqueté par les nuages de fléchettes. Je les rouvris pour échapper à cette vision. Les immeubles étaient maintenant plus hauts, 10aine d'étages au minimum. les ombres qu'il projetait étaient plus denses. Mais la chaleur était toujours torride.
Un ami de ma mère, qui avait participé au dernier pèlerinage d'Hyperion et qui a vécu ici pendant quelque temps,
était en train de me dire aîné. Sa voix semblait continuellement entrer et sortir de mon champ d'audition, comme une station de radio mal réglée.
« Sol Weintraub, croassais-je, l'érudit des cantos du vieux poète. »
Aîné me tapota la main.
« J'oubliais que tout ce que ma mère a vécu est devenu matière de légende pour le moulin de l'oncle Martin, »
murmura-t-elle. Il y eut un chaos. Je serrai les dents pour ne pas hurler de douleur. La pression de la main d'aîné sur la mienne s'accentua.
« Oui, » dit-elle. « J'aurais bien voulu connaître le vieux Sol et sa fille. »
« Ils ont disparu dans le sphinx. Comme toi, »
réussis-je à articuler. Elle se pencha sur moi, humecta mes lèvres avec la gourde et hocha la tête.
« Je me souviens des histoires que racontait ma mère sur Hébron et sur les kibboutzim de cette planète. »«
Des juifs, »
murmurai-je. Puis je renonçai à parler. J'avais besoin de toute mon énergie pour lutter contre la douleur.
Ils ont fui le second holocauste,
me dit Aîné en regardant devant elle, tandis que le véhicule de Sol tournait à l'angle d'une rue.
Ils appelaient leur égir la diaspora.
Je fermai les yeux. Le lieutenant acheva de se déchiqueter. Ses vêtements et sa chair volèrent en lambeaux qui s'abîmèrent en longues spirales dans l'océan violet. Soudain, Abétique était en train de me soulever. Nous entrâmes dans un bâtiment plus important et plus contourné que les autres, tout en plastacier vertigineux et verre hyper trempé.
Le centre médical, me dit l'androïde.
La porte automatique s'ouvrit en sifflant devant nous.
Il y a du courant, poursuivit Abétique. Espérons maintenant que l'appareillage est intact.
Je dus m'assoupir quelque temps. Lorsque je rouvris les yeux, terrifié par un double aileron qui faisait des cercles autour de moi, j'étais sur une table roulante en train de s'insérer dans le long cylindre d'une sorte de machine à diagnostic.
« À tout à l'heure, »
me dit Aîné en me lâchant la main.
« On se verra de l'autre côté. »
Nous restâmes sur Hébron 13 jours locaux, chacun valant 29 heures standard. Les trois premiers jours, je fus entièrement livré à la machine de chirurgie automatique. Je ne subis pas moins de 8 interventions radicales, plus une bonne douzaine de traitements d'appoint d'après le dossier qui nous fut livré ensuite. C'était effectivement un micro-organisme du misérable océan planétaire de Mare Infinitus qui avait décidé d'avoir ma peau. Mais lorsque je pris connaissance des scanners RM et bioradar internes, je m'aperçus que l'organisme en question n'était pas si micro que cela, en fin de compte. Quelle que soit sa nature exacte, la machine de diagnostic demeurait vague sur ce point, il s'était installé le long de ma côte blessée et y avait poussé comme un champignon avant d'étendre ses filaments en direction de mes organes internes. Encore un jour sans intervention chirurgicale, d'après le rapport, et il n'aurait trouvé à l'intérieur que du lichen et des chairs en liquéfaction. Après m'avoir incisé pour me nettoyer de tout ça, puis répété l'opération deux fois lorsque les traces infinitésimales de la forme de vie océanique avaient recommencé à se multiplier, la machine autochirurgicale décréta que le micro-organisme était vaincu. Elle commença alors à s'occuper de mes autres blessures graves. Celle que j'avais aux côtés aurait dû me vider de mon sang, surtout si l'on considérait mes efforts pour nager et l'hypertension due aux émotions causées par les créatures à deux nageoires. Il était clair que les cartouches de plasma du vieux Medipack et les doses généreuses d'ultramorphine administrées durant plusieurs jours par aîné pour me maintenir dans un état semi-comateux m'avaient sauvé la vie en attendant que la machine de chirurgie me transfuse 8 nouvelles unités de plasma. La profonde blessure de mon bras ne comportait pas, comme je le craignais, de tendons sectionnés, mais les dommages aux muscles et aux nerfs étaient suffisamment importants pour que la machine autochirurgicale s'attaque au problème durant les phases 2 et 3. Comme il y avait encore du courant à notre arrivée, le chirurgien de silicium avait pris l'initiative de commander aux banques d'organes du sous-sol la fabrication des nerfs de remplacement dont j'avais besoin. Le huitième jour, lorsque la fillette s'assit à mon chevet pour me raconter comment l'auto-chirurgien ne cessait de solliciter conseils et autorisations de la part de ses superviseurs humains, je pus même rire de l'évocation du docteur Bétic donnant son aval à chaque stade critique des opérations, transplantations et autres actes thérapeutiques exercés sur moi. La jambe que le squale multicolore avait essayé de m'arracher se révéla être la partie la plus douloureuse du processus. Après avoir été nettoyée de toute trace du champignon marin, la zone écorchée par les dents du squale reçut des greffes de peau et de nouveaux tissus transplantés couche par couche. Ce fut extrêmement pénible. Ensuite, lorsque la douleur disparut, cela me démangea horriblement. Durant ma deuxième semaine d'hospitalisation, je manifestais des symptômes de privation d'ultramorphine, et j'aurais sérieusement envisagé de coller mon pistolet à la tempe de la fillette ou de l'androïde pour exiger de la morphine si j'avais pensé pouvoir les intimider ainsi. Mais le pistolet avait disparu, perdu au fond de la mer violette. C'est le huitième jour, également, que je commençais à m'asseoir dans mon lit et à m'alimenter, ne fût-ce qu'avec la bouillie d'hôpital insipide issue des cuves de réplication. Je racontais alors à Aîné mes brefs exploits de héros en disant « Mon dernier soir sur Hyperion, je me suis saoulé en compagnie du vieux poète et je lui ai promis d'accomplir certaines choses au cours de ce voyage.
« Quoi, par exemple ?»
me demanda Aîné en plantant la cuillère dans mon assiette de gélatine verte.
« Oh, pas grand-chose. Te protéger, te raccompagner à la maison, retrouver l'ancienne terre et la lui ramener pour qu'il puisse l'admirer une dernière fois avant de mourir. »
Elle s'arrêta au milieu d'une bouchée de gélatine. Ses sourcils noirs étaient très hauts sur son front.
« Il t'a demandé de lui ramener l'ancienne terre ? Très intéressant, ça. »
« Ce n'est pas tout. Au passage, j'étais censé parler aux extros, détruire la Pax, renverser l'église et, je cite, « découvrir ce que ce putain de technocentre est en train de manigancer afin de l'empêcher d'agir. »
Aîné posa sa cuillère et se tapota les lèvres avec ma serviette.
« C'est tout ?»
demanda-t-elle. Je frottai mon front en sueur de ma bonne main, la gauche.
« Je crois. C'est tout ce que je me rappelle, en tout cas.
J'étais ivre, comme je te l'ai dit.
Comment est-ce que je me débrouille par rapport à cette liste, d'après toi ?»
Elle fit son geste de dérision avec ses petites mains.
« Pas trop mal. » N'oublie pas qu'il n'y a que quelques mois standards que tu as commencé. Moins de 3, en réalité.
C'est vrai.
Je regardais par la fenêtre où de longs rayons de soleil frappaient les bâtiments en pisé de l'autre côté de la rue. Au-delà de la cité, j'apercevais les collines rocheuses embrasées par la lumière du soir. C'est vrai, répétais-je, toute ironie et toute énergie à présent absente de ma voix. Je ne me suis pas trop mal débrouillé jusqu'à présent. Je soupirais et repoussais mon plateau.
Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Malgré toute la confusion qui régnait, pourquoi leur radar n'a-t-il pas repéré le radeau alors qu'il était si près ?
Ah, Bétic a tiré dessus,
me dit la fillette en reprenant une cuillerée de gélatine verte.
Pardon ?
Ah, Bétic a détruit leur parabole. Avec ton fusil à plasma.
Elle acheva la bouillie verte et remit la cuillère en place. Depuis 8 jours, elle faisait office d'infirmière, de médecin, de cuisinière et de plongeuse.
Je croyais qu'il était incapable de tirer sur des humains, fis-je remarquer.
C'est vrai,
me répondit Aîné en vidant son plateau pour le ranger sur une tablette voisine.
Je lui ai posé la question, mais il m'a affirmé que rien ne l'empêchait de tirer sur toutes les paraboles qu'il voulait. Et c'est ce qu'il a fait, avant de te repérer et de plonger pour te sauver.
« Ça représente 3 ou 4 kilomètres de distance, » murmurai-je. « Sur un radeau sans cesse en train de remuer ?
Combien de cartouches pulsantes a-t-il tiré ?»«
Une seule, »
fit Aîné qui était occupé à lire les indications du moniteur au-dessus de ma tête. Je laissais entendre un petit sifflement.
« J'espère qu'il ne s'en prendra jamais à moi. » murmurai-je. Même à distance ?
Il faudrait que tu sois une parabole pour avoir des raisons de t'inquiéter,
dit-elle en me bordant dans mes draps propres. Où est-il en ce moment ? Elle marcha jusqu'à la fenêtre et pointa l'index en direction de l'est.
Il a trouvé un VEM avec une charge complète. Il a déjà inspecté les kibboutzim du côté de la grande mer salée.
Ils sont vides ?
Complètement vides. Désert, abandonné. Il ne reste pas un chat. Pas le plus petit hamster.
Je savais qu'elle ne plaisantait pas. Nous en avions déjà parlé. Quand une communauté évacue son village en catastrophe, les animaux domestiques ou familiers restent souvent derrière. Il y avait eu des problèmes avec des meutes de chiens sauvages durant l'insurrection au sud de la péninsule de la Serre, sur le continent d'Aquila. La garde nationale avait été obligée de tirer à vue sur ces bêtes.
« Cela signifie qu'ils ont eu le temps d'emporter leurs animaux avec eux, » murmurai-je en hochant la tête.
Aîné se tourna vers moi, les bras croisés.
« En laissant leur linge, leurs ordinateurs, leurs persocs, leurs journaux intimes, leurs holos familiales, tout le fatras ?»«
Et rien de tout cela ne nous donne une idée de ce qui s'est passé ? Une dernière entrée dans un journal ? Une caméra de surveillance ? Un message de dernière minute dans un persoc ?
Rien du tout. Au début, j'avais des scrupules à m'immiscer dans leur vie privée, mais j'ai eu le temps depuis de passer des dizaines d'enregistrements. Ils ne contiennent rien d'autre que des nouvelles des combats voisins. Le grand mur se trouvait à moins d'une année-lumière, et les vaisseaux de la Pax envahissaient leur système. Ils ne se sont pas beaucoup posés sur la planète, mais il était clair qu'Hébron n'aurait pas d'autre choix quand tout serait fini que de rejoindre les autres protectorats de la Pax. Ensuite, il y a les nouvelles des extros qui progressent de plus en plus dans nos lignes, et puis plus rien. À notre avis, la Pax a évacué la population tout entière avant de céder la place aux extros. Mais il n'y a aucune trace d'une telle évacuation dans les holos, ni dans les ordinateurs, ni dans les journaux intimes des gens. Tout se passe comme s'ils avaient disparu tout d'un coup.
Elle se frotta les bras.
J'ai ici quelques disques holos si tu veux les visionner.
Plus tard, murmurai-je. Je me sentais extrêmement là.
Abétique sera de retour demain matin,
continua Aîné en remontant la fine couverture jusqu'à mon menton. Par la fenêtre, je vis que le soleil s'était enfin couché, mais les collines étaient littéralement embrasées par la lumière emmagasinée. C'était un spectacle crépusculaire dont je pensais ne jamais pouvoir me lasser. Mais pour le moment, j'avais le plus grand mal à garder les yeux ouverts.
Tu as toujours le fusil ?
Demandai-je d'une voix pâteuse.
Le fusil à plasma.
Abétique est parti, nous sommes tout seuls ici.
Tout est resté sur le radeau,
me dit Aîné.
Essaie de dormir un peu.
Le premier jour où je repris pleinement conscience, j'essayais de les remercier tous les deux de m'avoir sauvé la vie. Mais ils ne voulurent rien entendre.
Comment m'avez-vous retrouvé ?
Demandai-je.
Ça n'a pas été difficile,
me dit Aîné.
Ton micro est resté branché jusqu'à ce que l'officier de la Pax te poignarde et le casse. Nous avons tout entendu. Nous avons tout vu aussi grâce aux jumelles.
Vous n'auriez jamais dû quitter le radeau tous les deux. Vous avez pris un gros risque.
Pas tout à fait, Achandimion, me dit l'androïde. En plus de l'ancre flottante qui ralentissait considérablement le radeau, Achéné a eu l'excellente idée de laisser traîner derrière lui un rondin attaché à l'une de nos cordes qui fait une centaine de mètres. Si nous n'avions pas pu rattraper le radeau, nous aurions eu la corde. Et tout a très bien marché, comme vous avez pu le constater.
C'était quand même stupide, déclarai-je en secouant la tête.
Merci du compliment,
fit Aîné. Le dixième jour, j'essayais de me mettre debout. Ce fut une victoire éphémère, mais une victoire tout de même. Le douzième jour, je parcourus toute la longueur du couloir pour aller aux toilettes. Ce fut une victoire majeure. Le treizième jour, toute la ville tomba en panne d'électricité. Les générateurs de secours se mirent en place dans les sous-sols de l'hôpital, mais nous savions désormais que notre temps était compté.
« J'aimerais pouvoir emporter l'autochirurgien, »
annonçai-je ce soir-là tandis que nous étions tous assis sur la terrasse du huitième étage, en train de contempler l'avenue dans l'ombre en contrebas.
Il y aurait de la place, fit Abétique, mais le branchement du cordon d'alimentation poserait un problème.
Sérieusement,
insistai-je en essayant de ne pas prendre la voix du patient parano et démoralisé que j'étais en réalité. Il faudrait au moins emporter tous les produits pharmaceutiques dont nous risquons d'avoir besoin.
C'est déjà fait, me dit Aîné. 3 Medipacks d'un nouveau modèle amélioré, un gros sac d'ampoules de plasma, un diagnostiqueur portable, de l'ultramorphine en quantité. Mais inutile de quémander, tu n'en auras pas aujourd'hui.
Je tendis la main gauche. Regarde, elle ne tremble plus depuis cet après-midi. Je ne t'en demanderai pas avant longtemps. Elle hocha la tête. Au-dessus de nous, de gros nuages duveteux étaient éclairés par les dernières lueurs du soir. Combien de temps croyez-vous que les générateurs tiendront ? Demandai-je à l'androïde. L'hôpital était l'un des rares bâtiments de la ville encore éclairés. Peut-être quelques semaines, me répondit-il. Le réseau s'entretient et s'autorépare depuis des mois, mais les conditions sont rudes sur cette planète. Vous avez pu remarquer les tempêtes de sable qui viennent du désert presque chaque matin. Même si la technologie locale est très avancée pour un monde qui n'appartient pas à la Pax, la présence d'humains est indispensable.
L'entropie est une salope, murmurai-je.
Allons, allons,
fit Aîné penché sur le muret de la terrasse.
L'entropie peut aussi être notre amie.
Par exemple, demandai-je. Elle se tourna, appuyant les deux coudes en arrière sur le muret. Le bâtiment qui se profilait derrière elle était un rectangle noir, contre lequel ressortait son teint bronzé.
Elle peut abattre des empires, reprit-elle, et venir à bout de tous les despotismes.
C'est vite dit, répliquai-je. Peut-on savoir à quel despotisme tu fais allusion ? Elle fit son geste d'insouciance. Un instant, je crus qu'elle allait choisir de ne rien dire, mais elle murmura.
Les Huns, les Scythes, les Visigoths, les Ostrogoths, les Égyptiens, les Macédoniens, les Romains, les Assyriens.
Bien sûr, grommelai-je, mais...
Les Avars, les Wei du Nord, continua-t-elle. Les Chouan-Chouan, les Mamelouks, les Perses, les Arabes, les Abbassides, les Seljoukides.
D'accord, d'accord, mais je...
Les Kurdes, les Ghaznévides,
poursuivit-elle en souriant.
Sans oublier les Mongols, les Suis, les Tangs, les Buminides, les Croisés, les Cosaques. Les Prussiens, les Nazis, les Soviétiques, les Japonais, les Javanais, les Noramais, les Grands Chinois, les Columpéraux et les nationalistes de l'Antarctique.
Je levai la main. Elle s'arrêta. Regardant abétique, je protestais.
Je ne connais même pas toutes ces planètes. Et vous ?
Je pense que Aîné fait allusion à des peuplades de l'ancienne Terre à Chandimion, me dit-il en gardant une expression imperturbable.
Sans déconner. Demandai-je.
Sans déconner, je crois qu'on peut le dire dans ce contexte, fit Abétique sur le même ton. Je me tournai de nouveau vers la fillette.
C'est donc ça, ton plan pour renverser la Pax afin de faire plaisir au vieux poète ? Te planquer quelque part et attendre que l'entropie fasse son œuvre ?
Elle croisa de nouveau les bras.
Pas tout à fait,
me dit-elle.
Normalement, cela aurait pu être un bon plan. Laissez passer quelques millénaires pour que le temps aplanisse les choses. Mais ces foutus cruciformes sont venus compliquer l'équation.
Comment ça ? Demandai-je de ma voix la plus sérieuse.
Même si nous voulions déstabiliser la Pax, ce que je ne veux pas, je te le signale en passant, c'est ton boulot, nous n'aurions plus l'entropie avec nous, à cause de ce parasite qui rend les gens pratiquement immortels.
Pratiquement immortels, répétai-je à voix basse.
Lorsque je me suis vu mourir, je dois avouer que j'ai pensé au cruciforme. Cela aurait été tellement plus facile, tellement moins pénible que tout ce processus de chirurgie et de guérison. Se laisser simplement mourir et puis ressusciter.
Le regard d'Aîné était fixé sur moi. Finalement, elle murmura.
C'est la raison pour laquelle cette planète offre les meilleurs soins que l'on puisse trouver, aussi bien dans la Pax qu'à l'extérieur.
Quelle raison ? Demandai-je. J'avais la tête lourde de fatigue et de médicaments.
Ses habitants étaient... sont tous des Juifs. Très peu ont accepté la croix. La vie ne leur laissait qu'une seule chance.
Nous demeurâmes quelque temps sans rien dire. Tandis que les ombres envahissaient les canyons urbains de la Nouvelle Jérusalem, et que l'hôpital bourdonnait, tant qu'il en était encore capable, d'une vie électrique éphémère. Le lendemain matin, je marchais jusqu'au véhicule de Sol qui m'avait amené à l'hôpital 13 jours plus tôt. Installé à l'arrière sur un matelas, je demandai à mes deux compagnons de partir à la recherche d'une armurerie. Au bout d'une heure, il devint évident qu'il n'y en avait pas une seule dans toute la Nouvelle Jérusalem.
« Ça ne fait rien, leur dis-je. Un commissariat de police. »
Il y en avait plusieurs. J'entrai en boitant dans le premier, après avoir refusé que l'androïde et la fillette me servent de béquille. Je ne tardais pas à découvrir à quel point une société pacifique peut être sous-armée. Il n'y avait ni armoire ni râtelier à armes. Pas le moindre étourdisseur ou fusil anti-émeute.
Et je suppose qu'il n'y a pas de garde nationale sur Hébron, murmurai-je.
Je ne crois pas, fit Abétik. Jusqu'à l'arrivée des extros, il y a 3 années standard, cette planète ne connaissait aucun ennemi, ni humain ni animal.
Je répondis par un grognement et continuai de fouiller les locaux. Je finis par découvrir quelque chose après avoir forcé la triple serrure d'un tiroir au bas d'un bureau qui devait être celui du chef de la police ou un truc comme ça.
« Un Steiner Gin, je crois, » déclara l'androïde. « Il tire de petites charges au plasma. »
« Je connais ces pistolets, » répliquai-je.
Il y avait 2 chargeurs dans le tiroir. Cela devait représenter 60 coups. Je sortis dans la rue, visai une colline lointaine et pressai l'anneau de détente. Le pistolet toussa et un petit éclair apparut au flanc de la colline.
« Parfait !» déclarai-je en glissant l'arme dans mon étui vide. J'avais craint à un moment qu'il ne s'agisse d'un engin à signature, utilisable uniquement par son propriétaire légal. Au fil des siècles, ce genre de gadget revenait quelquefois à la mode.
« Il y a le pistolet à fléchette qui est resté sur le radeau, » me dit Abétik. Je secouai la tête. Je ne voulais plus avoir affaire à ces trucs-là pendant un bon moment.
Abétik et Aîné avaient fait des provisions d'eau et de vivres pendant que je récupérais. Lorsque je m'avançais en boitillant vers la berge du canal, où était amarré notre radeau refait à neuf et chargé de matériel, je m'étonnais de voir les caisses qui s'entassaient.
« J'ai une question, » déclarai-je. « Pourquoi continuer avec ce tas de bois flottant alors qu'il y a de superbes petits yachts amarrés ici un peu partout? Nous pourrions aussi prendre un VEM et nous déplacer confortablement par la voie des airs ?»
La fillette et l'homme bleu échangèrent plusieurs regards.
« Nous avons voté pendant que tu étais sous traitement, »
me dit Aîné.
« Nous continuons avec le radeau. »«
Et moi, je ne vote pas ?» lançai-je. « Je voulais feindre la colère, mais je n'eus pas à me forcer. J'étais réellement irrité. »«
Bien sûr, »
me dit l'enfant, campé sur le pont du radeau, les mains sur les hanches et les pieds légèrement écartés.
« Vas-y, je t'écoute. »
Je vote pour qu'on choisisse un VEM bien confortable,
commençai-je, détestant le ton plaintif qu'avait pris ma voix, mais poursuivant tout de même.
Ou peut-être un de ces bateaux de plaisance qui semble avoir tout ce qu'il faut à bord.
Je vote pour qu'on abandonne ce vieux tas de bois.
Ton vote est enregistré, me dit-elle. Abétik et moi, nous sommes pour garder le radeau. Il ne consomme pas d'énergie et il flotte. Tous ces bateaux auraient renvoyé un éco-radar sur Mare Infinitus. Et un VEM n'aurait pas fonctionné sur certains mondes. 2 voix pour, 1 contre. On garde le radeau.
C'est de la démocratie, ça ? Demandai-je. J'avoue que j'aurais bien fessé cette gamine.
Si ce n'en est pas, c'est quoi, à ton avis ?
Me demanda-t-elle. Pendant cette conversation, Abétik se tenait au bord du quai, retournant un bout de cordage dans ses mains avec l'air embarrassé de quelqu'un qui assiste à une querelle de famille. Il portait une tunique ample et un short large en toile de lin écru. Sur sa tête était posé un chapeau jaune à large bord. Aîné s'avança sur le radeau et donna du mou à la mare de poupe.
« Si tu veux un yacht ou un VEM, ou encore un lit flottant, peut-être, Roll, tu n'as qu'à le prendre. Abétik et moi, nous irons sur ce radeau. »
Je commençai à boitiller en direction d'un joli petit hors-bord amarré le long du quai.
« Une seconde !» déclarai-je en pivotant sur ma jambe valide pour croiser de nouveau son regard. « Le distrans ne marchera pas si j'essaie de le franchir tout seul. »«
Bien vu !»
me dit-elle.
Abétik était déjà à bord du radeau.
Elle défit la mare de proue. Le canal était beaucoup plus large ici qu'entre les parois de béton de l'aqueduc. Il faisait une trentaine de mètres dans toute la traversée de la Nouvelle Jérusalem. Abétique s'installa à la godille et me regarda tandis que la fillette prenait une longue perche pour repousser le radeau du quai.
« Attendez !»
m'écriai-je.
« Attendez, merde !»
Clopin-clopant, je me rapprochai du bord du quai et franchis d'un bond la distance d'un mètre qui me séparait du radeau. Je retombai sur ma jambe convalescente et dus mettre mon bras valide en avant pour rouler jusqu'à la micro-toile de tente. Aîné m'offrit sa main, mais je l'ignorai en me relevant tout seul.
« J'ai rarement vu une gamine plus têtue que toi !» lui dis-je.
« Tu peux parler !»
répliqua Aîné. Elle alla s'asseoir à l'avant du radeau tandis que l'androïde nous guidait au milieu du courant. Sans l'ombre projetée par les immeubles, le soleil des bronzes était plus féroce que jamais. Je mis mon tricorne froissé pour me protéger un peu et rejoignis l'androïde à l'arrière.
« Vous êtes de son côté, je suppose, »
murmurai-je tandis que la rivière redevenait un étroit canal au milieu du désert.
« Je vous assure de ma neutralité, Achandimion, » fit l'homme bleu.
« On dit ça. Vous avez quand même voté pour le radeau, non ?»«
Il nous a bien servi jusqu'à présent, »
déclara l'androïde en s'écartant tandis que je prenais la barre. Je regardais la pile de caisses sous l'auvent de la tente, puis le foyer de pierre avec son cube de chauffage, ses marmites et ses casseroles. La carabine et le fusil à plasma étaient rangés à portée de la main, bien huilés, protégés par des chiffons. Nos paquetages avaient été refaits, et les sacs de couchage, Medipack et autres accessoires de première nécessité étaient tout neufs. Le mât, à l'avant, avait été dressé en mon absence, et l'une des chemises blanches de l'androïde flottait au vent comme un drapeau.
Bof. Murmurai-je. C'est vraiment de la connerie.
C'est exactement ma pensée, Achandimion, fit l'androïde.
Le portail suivant n'était qu'à 5 kilomètres de la sortie de la ville. Je levai les yeux vers le soleil des bronzes, tandis que nous franchissions l'ombre mince de l'arche, puis vers la structure intérieure du portail. Jusqu'à maintenant, il y avait toujours eu un moment, dans les occasions précédentes, où l'air se mettait à miroiter en nous montrant progressivement ce qu'il y avait de l'autre côté. Dans le cas présent, il n'y avait que des ténèbres absolues. Et cela ne changea pas lorsque nous passâmes de l'autre côté. La température chuta de 70 degrés Celsius au minimum. En même temps, la gravité se transforma. Subitement, j'eus l'impression de porter sur mon dos quelqu'un qui avait la même masse que moi.
« Les lampes !»
m'écriai-je. Je tenais la barre à deux mains contre le courant devenu soudain violent. Je faisais des efforts désespérés pour garder mon équilibre malgré le poids terrible qui me tirait vers le bas. La combinaison de l'obscurité totale, du froid glacial et du poids oppressant avait quelque chose de terrifiant. Mes deux compagnons avaient chargé à bord de nombreuses lampes trouvées à la Nouvelle Jérusalem, mais ce fut notre bonne vieille lanterne qu'Aîné alluma en premier lieu. Son faisceau troua une atmosphère faite de vapeurs glacées flottant sur des eaux noires. Puis il illumina une voûte gelée à une quinzaine de mètres au-dessus de nos têtes. Des stalactites de glace modelées descendaient presque jusqu'à l'eau. Des poignards de glace hérissaient la voûte et émergeaient à la surface de chaque côté du radeau. Très loin devant nous, là où la lumière commençait à mourir, à une centaine de mètres environ, il semblait y avoir une muraille de blocs de glace qui prolongeait la voûte et arrivait presque au ras de l'eau. Nous étions dans une caverne glacée, et il n'y avait aucune issue visible. Le froid me brûlait les mains, les bras et le visage. La gravité pesait sur ma nuque comme un épais collier de fer.
« Zut !»
m'exclamai-je. Je bloquai la godille et me rapprochai en boitant des caisses de matériel. Il n'était pas facile de conserver la position verticale avec une patte folle et 80 kilos sur le dos. Aîné et l'androïde étaient déjà en train de fouiller dans les paquetages à la recherche de vêtements isolants. Soudain, il y eut un craquement sinistre. Je levai instantanément les yeux, m'attendant à voir une stalactite dégringoler sur nous, mais ce n'était que notre mât qui avait accroché une aspérité de la voûte. Il se coucha beaucoup plus vite qu'il ne l'aurait fait sous la gravité d'Hyperion, comme dans un film holo en accéléré. Des éclats de bois volèrent de tous les côtés. La chemise de l'androïde toucha le pont avec un bruit sonore. Elle s'était rigidifiée et une couche de givre la recouvrait entièrement.
« Zut !»
répétai-je. Mes dents claquaient de manière irrépressible tandis que je fouillais précipitamment dans mon sac à la recherche de mes sous-vêtements de laine.